austeridade e современном искусстве.
Quand on a pris conscience de cela, eh bien, on ne s'en remet pas.
Bonjour à tous, bienvenue dans les rendez-vous de la création contemporaine. Vous êtes sur Brume, je suis Guillaume Durand et aujourd'hui, nous allons parler du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne. Pour les auditeurs fidèles, vous savez que la semaine dernière, nous en avons déjà parlé, mais lors d'une émission reportage, où le directeur Laurent Negui et la commissaire de l'exposition, qui est aussi chargée des collections, Jeanne Brun, nous ont accordé une interview pour nous expliquer un petit peu leur point de vue sur l'acquisition et sur cette exposition Perspective Contemporaine, qui vient de qui s'est ouverte il y a quelques semaines et qui va d'ailleurs jusqu'au 28 novembre, ce qui laisse assez peu de temps pour la découvrir. Et donc la semaine dernière, nous avions cette émission reportage, mais aujourd'hui, nous avons décidé de faire une émission critique sur cette même exposition. Bonjour Solène.
Bonjour Guillaume.
Solène Divolzi, bien entendu, qui m'accompagne pour co-animer ce débat critique, comme d'habitude. Alors, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on va faire dans cette émission.
Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de l'exposition Perspective Contemporaine, qui occupe la majeure partie du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne, vous l'avez dit, et qui se tient donc jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'au 28 novembre. Il vous reste très peu de temps pour en profiter. Donc, concernant cette exposition, nous pouvons souligner que le Musée d'Art Moderne souhaite ainsi valoriser sa collection et surtout mettre l'accent sur de nouvelles acquisitions. Donc, ça va être un petit peu le propos de notre émission. Donc, dans cette exposition, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve une exposition thématique, je crois qu'on peut la définir comme ça, qui nous montre des œuvres de plusieurs grands mouvements, donc notamment du pop art avec Liechtenstein, Wesselmann, du nouveau réalisme avec Marcial Reiss, Villeglay, de l'art minimaliste américain avec Donald Judd, Frank Stella, de l'art allemand avec Baselitz, Richter, de l'art conceptuel avec Kossuth par exemple, ou encore de l'arte povera avec Pistoletto, et puis des artistes aussi peut-être un peu plus familiers pour nos auditeurs qui sont habitués à nos expositions d'art contemporain, comme Lavier ou Yann Fabre. Donc c'est vrai que c'est aussi l'occasion pour le public, via une sélection des acquisitions du musée depuis plus de 20 ans, d'admirer ces grands ensembles dont nous avons parlé juste à l'instant, via divers modes d'acquisition. Donc ces divers modes peuvent être l'achat, le don, le dépôt, le legs, la dation ou encore le transfert de propriété par l'État.
Aujourd'hui, pour parler de cette exposition, on reçoit deux de nos chroniqueurs favoris, bien entendu, récurrents. On reçoit Françoise Leonardoni. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Françoise qui est toujours responsable de l'artothèque de la Part-Dieu. Et on reçoit aussi Guilherme Pertuis. Bonjour Guilherme.
Bonjour.
Guilherme Pertuis que les auditeurs connaissent bien puisque toutes les deux semaines, il nous donne une critique, une petite chronique. Assez intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a son petit succès. En tout cas, moi, je suis fan, et je crois que Solène, vous aussi.
Également.
Et donc, Guilherme, qu'on reçoit aujourd'hui, en plus donc, de ces fameuses chroniques.
Donc, tout de suite, je vais en profiter qu'on ait nos deux chroniqueurs sous la main pour leur poser une question à chaud. Donc, c'est concernant, en fait, la recontextualisation des œuvres dans cette exposition. Donc, effectivement, comme j'ai pu en parler un petit peu en introduction, il y a énormément d'œuvres. Je crois qu'il y en a plus d'une centaine qui sont présentées dans cette expo, avec donc des œuvres qui sont emblématiques de l'histoire de l'art. Hein. Quand on a un petit peu étudié l'histoire de l'art ou qu'on s'y intéresse, on n'est pas perdu. On retrouve facilement des grands noms, des choses qui nous sont un petit peu familière. Et c'est une exposition qui est d'ailleurs construite de façon très didactique avec des grands ensembles. Et justement, moi, j'aurais souhaité savoir si vous n'avez pas un petit peu manqué de repères chronologiques justement par rapport à l'histoire de l'art. Et peut-être que le musée aurait pu proposer à son public une forme d'information, donc je ne sais pas, peut-être avec une frise ou avec des documents dans les salles, des choses un petit peu qui auraient pu nous aider à recontextualiser ces œuvres.
Françoise Leonardoni.
Oui, alors j'ai un peu l'impression en vous écoutant que je ne suis pas certaine qu'ils aient respecté à 100% l'accrochage chronologique traditionnel du musée, parce que il me revient en mémoire cette sensation lors de la visite d'avoir un accrochage intuitif, c'est-à-dire d'une pièce, on passe à une autre à travers un aspect de la problématique qui se développe dans une autre, et puis ensuite dans une autre, une sorte de capillarité, bien sûr qui est toujours respectueuse de l'histoire de l'art quand même, et puis on est sur une amplitude chronologique assez déterminée, je dirais les années 60 à nos jours à peu près, donc c'est quand même pas énorme comme amplitude chronologique, mais je pense qu'effectivement on a un accrochage qui est presque évident, qui est très jouissif quand on a des repères. Après, j'imagine qu'il faut faire de gros efforts de médiation pour qu'un public non connaisseur s'y retrouve. Ça, c'est certain. Et je ne suis pas certaine d'avoir vu beaucoup de médiation. si c'est ça votre question.
Oui, c'est un petit peu ça la question, c'est savoir quelle aide nous était proposée pour mieux cerner justement la place de ces œuvres dans l'histoire de l'art. Guilherme, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, il est certain qu'il y a sûrement un déficit d'aide à la visite. Je pense qu'il y a un petit fascicule qui est distribué aux visiteurs. Mais dans les salles, il n'y a pas de texte, il n'y a aucune information, si ce n'est les cartels. Alors effectivement, c'est peut-être un des reproches, c'est qu'il manque de l'information. Et bon, c'est assez grave pour le grand public, enfin pour la majorité des gens. Ceci dit, c'est aussi une force de l'exposition. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est une exposition et pas juste l'accrochage d'une collection avec des salles où on a les années 60, avec un développement sur l'art minimaliste dans une salle, et puis l'art conceptuel dans une autre. C'est pas tout à fait ça ici. Et c'est vraiment une construction, en fait, une véritable exposition où on confronte des objets, parfois qui ont été produits à des périodes assez différentes, puisqu'il n'y a pas que des salles par mouvement, mais aussi des salles thématiques. Je pense par exemple à des salles qui questionnent le médium peinture, avec à la fois des œuvres de Pascal Pinault, de Bernard Frise, qui sont déjà pas tout à fait de la même génération, et puis juste à côté une salle qui nous mène vers Bertrand Lavier, qui rejoue aussi la peinture avec d'autres médiums. Et donc ça, en fait, c'est des relations qui ne méritent pas forcément d'explication, parce que je pense que le visiteur peut aussi lui-même, même s'il ne saisit pas tous les enjeux historiques, purement formellement, il peut quand même faire des liens comme ça entre les propositions. Et je pense que le fait que le musée soit d'ailleurs extrêmement ouvert, on passe d'une salle à l'autre, un peu comme dans un labyrinthe, ça a à la fois l'inconvénient qu'on a mentionné au départ, mais je pense que ça enrichit aussi le propos et la lecture des œuvres.
Alors c'est vrai, comme on le disait, qu'il y a une histoire de l'art qui se déroule dans ce musée qui est tout bonnement hallucinante, hein, parce que si on faisait la liste des noms qui sont présentés, des artistes dont les œuvres sont présentes dans l'exposition, ben voilà, on aura un catalogue de l'histoire de l'art. Mais bon, il faut aussi dire qu'une exposition qui va comme ça retracer les années 60 jusqu'à nos jours va de toute façon appuyer plus sur une certaine époque ou sur un certain style ou sur certains mouvements que d'autres. Françoise, vous, est-ce que vous avez trouvé que dans cette exposition, il y avait des mouvements qui étaient sous-représentés ou sur-représentés ?
J'ai eu l'impression qu'on est dans une nouvelle génération du musée de Saint-Étienne, très clairement, que ceux qui avaient fait sa notoriété dans les années 80, c'était l'antériorité de Bernard Cesson, l'ancien conservateur, par rapport à des courants français qu'il avait été l'un des premiers à défendre, c'est-à-dire notamment support-surface. J'ai le souvenir aussi qu'il y avait pas mal de pièces d'une sorte de pop-art français qui s'appelait la figuration narrative. Tout ça est dans les réserves, tout ça a disparu. On a l'impression que le nouveau responsable, Laurent Tegui, veut nous montrer, enfin, en tout cas réussit à nous montrer la diversité et les richesses de sa collection, de la collection, pas seulement la sienne. Il a mêlé, je trouve, avec beaucoup d'intelligence, les dons, les dépôts, les anciennes acquisitions, parce qu'il y en a, il y a des acquisitions de 73, il y a un Warhol acquis en 73, ce qui est quand même assez précoce, hein, pour un musée de province en France. C'est une acquisition. Et il a mêlé ça avec sa propre politique d'acquisition, en fait. Et j'ai l'impression que quand on connaît l'histoire de ce musée, on sait qu'il n'y a pas vraiment de lacune. C'est un musée qui a à peu près réussi à remplir toutes les cases de l'histoire de l'art postérieure à 1960, même avant d'ailleurs, hein, mais en tout cas pour cette exposition-là. Les lacunes sont volontaires, évidemment, mais je pense qu'on a tous vu beaucoup, beaucoup de supports surface pendant 20 ans au musée d'art moderne de Saint-Étienne, et c'est bien de passer un peu à autre chose.
William Pertuis, sur cette histoire d'histoire de l'art, quelle histoire de l'art est représentée alors dans cette exposition Perspectives contemporaines ?
Quelle histoire est représentée ?
Est-ce qu'il y a un mouvement que vous avez qui vous a manqué, par exemple, dans le florilège de ce qui est présenté ? Est-ce qu'il vous a paru qu'il y avait des volontés particulièrement là, par exemple, Françoise nous parlait de support surface qui, c'est vrai, n'est pas représenté dans le musée alors qu'on sait que le musée en possède. Pareil pour la figuration narrative. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont paru manquer ou alors, au contraire, que vous avez trouvé particulièrement développées dans cette exposition ?
Par exemple, il y a une partie sur les actionnistes viennois qui est particulièrement développée, peut-être sur-représentée par rapport à l'importance de ce groupe qui est vraiment d'ailleurs ancré dans l'histoire et qui n'est plus vraiment actif aujourd'hui. Ce qui manque peut-être, c'est de jeunes artistes. On ne voit pas vraiment de tout jeunes artistes entre 30 et 45 ans. Ils sont très peu représentés. Et on sent que c'est quand même plutôt la partie historique qui a été présentée dans cette exposition. Et c'est peut-être sur ça qu'il y a des manques.
Alors justement, à propos, on parle de réception, on parle d'accessibilité, on parle d'histoire de l'art. Moi, j'aimerais quand même poser une question qui va peut-être faire bondir ou sourire certains, c'est la question du public. Donc moi, je suis allée voir cette exposition un lundi matin avec mon papa, vous saurez tout. Et on a été agréablement surpris de voir qu'il y avait énormément de monde dans le musée. Donc malheureusement, nous n'étions pas seuls dans les salles. Moi, j'adore être seule face à une œuvre. Et là, par contre, il y avait énormément de monde et des publics très divers. Donc d'après vous, est-ce que c'est une exposition, attention, je mets des guillemets, grand public français?
Comme je vous l'ai déjà dit, Solène, je pense que le grand public est une notion, est une construction de toute pièce que nous avons fabriquée, nous, les responsables culturels. Et d'autre part, je pense aussi que le chemin entre l'individu et l'œuvre ne se fait pas spontanément, jamais, jamais, quelle que soit l'œuvre, qu'elle soit musicale ou artistique plus largement. Alors, nous y sommes allés un dimanche, le premier dimanche du mois, c'est gratuit. Mm-hmm. Les salles étaient noires de monde et sans vouloir faire la dame qui connaît les sociostyles, c'était quand même des gens qui n'ont pas des pratiques culturelles habituelles. C'est très évident en écoutant un peu les réactions. Il y avait aussi des personnes du troisième âge en nombre, hein, vraiment. Et aussi bon, voilà, des gens de Saint-Étienne. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux, de difficile à réussir, d'avoir la population locale, grand public peut-être, c'est ça le grand public, je ne sais pas, qui se déplace et qui vient voir son musée. Parce que
et ses collections.
Et ses collections, voilà. Les collections sont à eux, elles ne sont pas à Laurent et Guy ou à nous.
Oui, mais alors du coup, cette problématique plutôt de signalétique, d'absence de... d'une médiation papier importante, est-ce que là, du coup, ça crée c'est pas d'autant plus un problème? Parce que si effectivement, c'est les gens de Saint-Étienne lambda, entre guillemets, qui n'ont pas, comme vous dites, pour parler comme ça, une pratique culturelle, je sais pas comment vous dites, d'ailleurs fréquente, ou je sais pas quel est le mot que vous avez employé, mais du coup, ça crée peut-être d'autant plus un problème de pas avoir une médiation papier intéressante, de pas avoir une recontextualisation des œuvres dans l'histoire de l'art, parce que j'imagine que ça doit paraître complètement abscon, du coup, tout ça, toutes ces œuvres mises ensemble, sans repère.
Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de grand public, effectivement, je suis assez d'accord avec Françoise, mais il y a des publics très différents, et je pense que c'est vraiment le genre d'exposition qui permet de les toucher. Et si on ne connaît absolument rien à l'art, on va quand même être touché d'une certaine manière, parce que tout le monde a déjà vu Warhol d'une manière ou d'une autre, donc ça va forcément rappeler, même à la personne qui n'a absolument jamais mis les pieds dans un musée, ça va lui rappeler quelque chose, parce que la publicité se l'est appropriée, même la télévision, enfin... Et je pense qu'il y a quand même dans ce genre d'exposition différentes entrées, différentes strates, différents niveaux pour y accéder. Et il me semble que n'importe quel type de public, et c'est peut-être pour ça que ça marche, et qu'il y a des publics si différents, et c'est qu'en fait, chacun peut y trouver aussi un peu ce qu'il souhaite.
Cela dit, moi je suis assez fervente défenseur de la médiation écrite, orale, sous toutes ses formes. Alors après, il y a le fameux débat autour des audioguides, hein, ces espèces de téléphones portables qui nous racontent des histoires à l'oreille.
Ce qui n'a, à ma connaissance, jamais été faux, musée d'art moderne d'ailleurs. Mais...
Non, le musée des Beaux-Arts l'a fait il y a peut-être 2 ans, mais c'est un gros travail.
Parce que le risque de trop de médiation, c'est aussi que les gens n'écoutent que le discours, sans vraiment regarder... Et passent leur temps à écouter un disque ou à lire du texte, mais des textes que bien souvent ils peuvent trouver ailleurs. Et je pense que le livret est le plus important, parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent parcourir dans l'exposition et repartir avec, donc éventuellement s'y replonger un peu plus tard s'ils ont envie. C'est souvent des textes assez courts et concis qu'on n'a pas besoin de lire pendant des heures. Et dans l'exposition, il me semble important quand même de vraiment être plongé dans les œuvres et de voir ça.
Du coup, excusez-moi de vous couper, mais c'est vrai que le temps file, on va tout de suite faire cette fameuse coupure musicale qui va scinder l'émission en deux. Aujourd'hui, on a choisi Iggy Pop avec cette chanson In the Death Car, qui était la BO d'Arizona Dream, un film de Kutsurisa en 1993. Pourquoi on a choisi cette chanson? Et ben, pour aucune bonne raison ou aucune mauvaise, on a juste envie de l'écouter. Il faut dire aussi, parce qu'on dit toujours que c'est une chanson d'Iggy Pop, que c'est une chanson d'Iggy Pop, mais avec Goran Bragovic, qui a lui aussi fait toute la BO avec Iggy Pop de ce film. Je vous propose qu'on l'écoute pour un bon petit moment, et puis on se retrouve juste après. We'll be right back.
dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
De retour dans les rendez-vous de la création contemporaine, vous êtes sur Brume, je suis avec Solène Divolzi, je suis Guillaume Durand, vous me connaissez, et bien entendu avec Françoise Leonardoni et Guilherme Pertuis qui nous font l'amitié d'être ici pour nous donner un peu leur avis sur cette exposition Perspectives contemporaines qui se passe au Musée d'art moderne de Saint-Étienne jusqu'au 28 novembre. Solène.
Donc tout de suite, j'aimerais enchaîner en parlant des deux directeurs que l'on connaît le plus du Musée d'art moderne de Saint-Étienne. Donc le premier qui était là à sa création en 1987, donc il s'agit de Bernard Cesson. Masson, qui aujourd'hui est galeriste, qui n'est pas neutre, je crois, dans le propos de l'émission concernant les acquisitions du musée. Et enfin, de Laurent Negui, qui est lui directeur depuis 2003. Donc, concrètement, pour faire très vite et sans s'attarder sur ces deux personnalités, quelle distinction ou au contraire, quelle continuité voyez-vous dans la ligne d'acquisition d'aujourd'hui, Françoise ?
Moi, j'ai l'impression que Cesson a créé un musée et qu'il avait toute l'histoire de l'art et tout l'art en train de se faire devant lui. Et j'ai l'impression que Laurent Negui a un héritage à gérer et qu'en plus, il est dans un contexte où ils sont trois gros musées dans la région, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, et que forcément, il faut qu'il trouve une distinction, une identité particulière pour développer sa propre politique d'acquisition et identifier Saint-Étienne par rapport aux deux autres gros partenaires.
Oui, Guillaume, sur cette distinction entre Cesson et Guy, ou cette continuité, je ne sais pas, quel est votre avis ?
Oui, plutôt une distinction, bien que je n'ai pas très bien connu les débuts de Cesson, mais je pense que ce qui est vraiment intéressant actuellement, c'est la politique d'exposition qui est vraiment liée à la collection en fait. Et les expositions, il y a un programme assez dense par Laurent Negui depuis quelques années. Et c'est aussi un moyen pour lui de constituer sa collection pour une partie et de diversifier un petit peu. Guillaume peut-être parlera un peu des artistes de l'Europe de l'Est, qui est un des points forts. Les actionnistes viennois dont on a parlé, je l'ai évoqué tout à l'heure, est aussi un point fort sur lequel il est revenu à trois reprises, je crois, avec Günther Bruce, Arnulf Reiner et Hermann Nitsch en ce moment. Donc comme ça, des cycles assez importants et assez forts qui permettent aussi de structurer la collection, ce qui n'était sûrement pas le cas auparavant.
Oui, il faut dire, puisque vous y faites référence, Guilherme, qu'en effet, Laurent Negui est hongrois et donc très investi dans ce qui, lui, appellerait peut-être une espèce de réconciliation de l'histoire de l'art avec les pays de la Mitteleuropa ou même voir les pays de l'Est, parce qu'il considère sans doute qu'il y a une espèce de ségrégation historique vis-à-vis des artistes de ces géographies-là à cause du rideau de fer de l'époque des blocs soviétiques et occidentaux. Et donc, il essaye, dans sa politique d'acquisition et dans sa gestion du musée globalement, d'essayer de faire entrer, d'une façon temporairement ou durablement, des artistes de cette géographie-là, pour montrer qu'ils avaient les mêmes préoccupations formelles, les mêmes influences, et que pourtant, on les connaît beaucoup moins que des artistes américains ou des artistes occidentaux. Françoise, ça vous paraît quelque chose de pertinent, d'ailleurs, cette volonté de forcer un petit peu la porte de l'histoire de l'art avec ces artistes-là ?
Alors, je pense qu'il y a toujours du mérite à vouloir casser les ségrégations et les habitudes. Et ça, là-dessus, moi, je ne peux que m'en réjouir parce qu'en effet, on a occulté tous les artistes de l'Est qui déjà étaient isolés politiquement et qui ensuite, quand ça s'est ouvert, ont eu beaucoup de mal vraiment à se faire reconnaître. Après, sur la force, la pertinence, la qualité intrinsèque des œuvres, j'ai vu des œuvres intéressantes qui ne me paraissait pas non plus crever l'écran, voilà, pour le dire simplement et d'une manière directe.
Alors il y a aussi un autre axe, que la Mitteleuropa d'acquisition de Laurent Negui. Et lui, il aime bien dire des œuvres paradigmatiques. C'est-à-dire que ce qu'il entend par là, c'est de choisir des œuvres, d'acheter des œuvres qui vont être extrêmement emblématiques d'un artiste et même que cet artiste soit emblématique lui-même d'une période. C'est-à-dire qu'il a cette volonté d'être le plus possible dans quelque chose de représentatif. On le voit beaucoup avec les dernières acquisitions qui ont été faites, des grandes pièces. On parlait de Tony Cragg tout à l'heure avant de commencer l'émission, cette pièce dont il nous parle d'ailleurs dans l'émission de la semaine dernière, que les auditeurs ont pu entendre, qu'il aime beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez, vous, alors peut-être Guilherme, pour commencer, de cette politique d'acquisition qui va aller vers l'efficacité maximum et vers ce qui va être le plus emblématique d'un artiste d'une période ?
Disons que déjà, ça peut être éphémère, ça peut être représentatif au moment, et emblématique au moment où il l'achète, mais ensuite retourner dans les réserves 10, 15, 50 ans après. Donc c'est, à mon avis, une pratique assez éphémère quand même. Et moi, je serais plus intéressé par un directeur d'institution qui va plutôt vers de jeunes générations, qui va, avec le peu de moyens qu'il a, parce que ça, c'est peut-être une question qu'on pourra aborder par la suite, il y a quand même de moins en moins de moyens pour acquérir des œuvres. C'est de plus en plus compliqué, le prix des œuvres est vraiment élevé. Et est-ce qu'il est vraiment efficace d'acheter quelques œuvres vraiment extraordinaires pour vraiment marquer le temps ? je ne suis pas sûr. Et je pense qu'il vaut peut-être mieux développer tout un panel de choix avec des œuvres un peu moins ambitieuses, peut-être, des choses qui émergent et qui et peut-être plus avoir un côté de regardeur, de dénicheur de talents éventuels, peut-être des fois se tromper. C'est arrivé, les acquisitions en France depuis une centaine d'années, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Mais il y a aussi des grandes réussites et des grandes redécouvertes aujourd'hui.
Est-ce que c'est forcément la place dans un musée? Est-ce que ce n'est pas plutôt le travail d'un centre d'art de dénicher de nouveaux talents? Sachant que les centres d'art n'ont pas de collection, on peut poser la question épineuse de savoir si le musée ne doit pas au contraire s'appuyer sur des valeurs sûres pour la suite.
Oui, à partir du moment où les valeurs sûres ne sont jamais sûres, c'est tout le problème aussi avec le débat, est-ce qu'il faut vendre les œuvres qui sont dans nos réserves? Ce fantasme aussi que les réserves sont pleines de chefs-d'œuvre non utilisés, non exposés. Moi, je serais plutôt partisan pour garder tout ce qui a été acheté, parce que c'est aussi une histoire
de l'acquisition.
Et puis même, il y a des artistes qui redeviennent importants alors qu'ils ont été négligés.
Françoise, donc, votre avis là-dessus?
Moi, je pense qu'on peut se tromper même avec des grosses Bertha. C'est-à-dire que pour Yann Fabre, par exemple, on parlait de cette pièce qui est gigantesque.
Cette pièce est mauvaise, à mon avis.
Mais... Absolument. Chez Yann Fabre, il y a aussi des pièces subtiles. Et je pense que c'est peut-être un peu le risque, c'est de tomber dans des grosses machines qui ne vont pas forcément aider le public à rentrer dans la subtilité d'une œuvre, mais qui vont être plus dans le caractère un peu médusant. C'est-à-dire qu'on est effectivement complètement baba.
Un peu tape à l'œil.
Devant cette pièce qui doit faire, je sais pas, 10-12 mètres de long.
On ne peut pas passer à côté, oui.
Mais au fond, est-ce qu'elle méritait d'être aussi grande dans un espace tel que celui où il est montré, etc., etc. Parce qu'une œuvre, elle peut exister, mais aussi avec son contexte. Et c'est une œuvre, à mon avis, qui est à mettre dans une fosse et à regarder de très haut, comme au Centre Pompidou, par exemple. Bref, donc on n'est pas forcément dans le vrai quand on veut montrer le plus frappant.
Solène, c'est l'heure de l'agenda.
C'est l'heure de l'agenda déjà. Donc un agenda très fourni en plus cette semaine. Donc la semaine qui arrive, deux vernissages à ne pas manquer. Un à la BF15 et un au MAC, donc au Musée d'Art Contemporain, pour le parcours hommage à Georges Adilon, artiste et architecte. Donc la BF15, c'est mercredi soir, mercredi 17. Et au MAC, c'est jeudi soir, donc c'est le lendemain.
On fera une émission d'ailleurs sur Georges Adilon très prochainement.
Voilà, tout à fait. Donc une autre exposition à ne pas manquer, ça se passe à la Fondation Bulukian, à certains Guillaume Durand, je crois, donc MC Museum of Fine Arts, jusqu'au 23 décembre. Je vous encourage bien sûr à aller la voir,
moi
notamment
aussi.
Tout le monde, je crois, autour de cette table.
Ensuite... Ça c'est gentil, je suis tout rouge, les auditeurs ne peuvent pas le voir. Mais...
J'enchaîne très vite pour pas que ça se sente. Donc une exposition que peut-être Françoise aura un petit mot à dire dessus, sur le volet 2 de l'expo Dwayne Mitchells à la galerie Vrai Rêve. Donc c'est jusqu'au 18 décembre. Je crois qu'elle n'a pas encore le temps d'aller le voir, mais bien sûr, elle va se rendre rue du Manche pour aller l'admirer jusqu'au 18 décembre. Le gros événement de la semaine prochaine, c'est également le vernissage à la salle de bain, donc samedi 20 novembre, l'expo d'Andy McCollum.
Alan McCollum.
Pardon, j'ai dit quoi?
Andy.
Pardon, mais pardon à Alan, donc. Each and every one of you, jusqu'au 22 janvier, vous avez le temps. Et enfin, petit coup de cœur spécial du Centre d'art de Saint-Fons, l'avant-première du film 200%, réalisé par Nicolas Boone et Olivier Bosson, réalisateur en résidence au Centre d'art, avec en majorité des habitants de Saint-Fons. Donc c'est vendredi 19 novembre à 19h, au Centre de formation du Grand Lyon, donc c'est à côté du Centre d'art.
Et bien maintenant, c'est l'heure de passer à cette petite tribune libre où les deux chroniqueurs vont nous parler un petit peu très brièvement de ce qu'ils aimeraient signaler aux auditeurs qui leur semble important comme exposition ou comme événement. Françoise, on commence par vous ?
D'accord. Moi, je voulais leur signaler que dans toutes les bibliothèques de Lyon se sont groupées pour organiser un gros événement autour des 40 ans du féminisme, enfin du MLF, plus exactement. Et dans ce cadre-là, les artistes sont représentés. Donc, mes collègues de la bibliothèque de Lyon ont invité Orlan et Catherine Millet.
Quel plateau.
Il y en a pour tous les goûts.
Le 24 novembre à 18h30 à La Part-Dieu, bibliothèque de La Part-Dieu.
Willem.
Alors je vais parler très rapidement d'une exposition qui se déroule à Genève au cabinet des estampes. C'est pas vraiment une exposition d'art contemporain, bien que les gravures de Valoton qui sont présentées soient dotées d'une certaine modernité. Donc oui, c'est une exposition sur quasiment l'intégralité de l'œuvre gravée de Valoton. Donc beaucoup de xylographies, dont la célèbre série des Intimités. Donc c'est cette série de... de gravures avec des grands aplats noirs et des parties en réserve blanche qui déterminent les figures et les détails des personnages. Donc c'est un ensemble vraiment important et qui sont confrontés à des peintures, quelques peintures, et l'idée est un petit peu inverse à ce qu'on voit souvent dans les expositions où les peintures sont placées comme des œuvres antérieures aux gravures qui vont suivre, qui vont diffuser l'œuvre. Là, c'est l'inverse. On essaye de démontrer que ce sont des gravures, des recherches vraiment sur le papier qui permettent d'accéder à des peintures importantes.
C'est sur ces mots qu'on va terminer l'émission. Je voudrais remercier Solène Nivolesi, bien sûr. Merci Solène.
Merci à Guillaume et à nos invités.
Et voilà, remercier bien sûr nos invités, Françoise Nardoni et Guillaume Pertuis, qui nous ont fait l'amitié de venir aujourd'hui. Nous avons parlé du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne et de cette exposition Perspectives Contemporaines qui va jusqu'au 28 novembre. La semaine prochaine, une émission reportage. Bonne semaine. Au revoir.
Au revoir.